Bonjour, samedi 28 mars, on se retrouve pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Et pour une édition spéciale consacrée en grande partie au crash de l'Airbus A320 de Germanwings dans les Alpes françaises, une catastrophe qui a fait, faut-il le rappeler, 150 victimes, nous allons en parler tout de suite et dans la seconde partie de ce magazine, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité internationale, africaine notamment. Rendez-vous aussi avec vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de RFI, www.rfi.fr. Mardi 24 mars, dans la matinée, un avion s'écrase dans les Alpes françaises, près de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Témoignage du maire de cette commune.
L'accident a eu dans un massif qui s'appelle le massif des Trois Évêchés. Et ce sont des vallons qui sont très hauts en altitude, inhabités, et les maisons d'habitation sont très loin du lieu où je pense qu'a eu cet accident. Si bien que pour l'accessibilité des secours, c'est certainement les hélicoptères qui ont détecté les premiers morceaux de l'avion dans la neige, parce que c'est tout enneigé encore à cette saison. Et les premiers secouristes sont héliportés pour arriver sur le lieu, parce que sinon il y a de nombreuses heures de marche, même pour des montagnards, pour arriver au lieu de l'accident. Ce que je peux dire, c'est que vu l'altitude, vu les conditions de l'accident, certainement ça serait difficile d'imaginer qu'il y ait des survivants. Ne serait-ce que parce que Barcelonnette, tout près de Barcelonnette, mais alors beaucoup plus près là, il y a 55 ans à peu près, il y avait eu un accident d'un super constellation qui faisait Paris-Saigon. C'était de nuit, par temps clair, et cet avion qui a accroché aussi, si je peux dire, un sommet qui était à près de 3000 mètres, pas loin de Barcelonnette, il n'y a eu strictement aucun survivant.
La catastrophe dont parle le maire de Barcelonnette a eu lieu en 1953. Crash en altitude donc, et d'autres témoignages.
J'ai vu un avion qui passait, j'ai dit il est un peu bas. Voilà, je l'ai vu pendant quoi, 5 secondes.
En fait, j'ai vu pendant 2-3 secondes l'avion à basse altitude et bon, dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il allait s'écraser quoi, parce que avec l'estro à 3000 mètres, voilà, c'est pas possible quoi. Parce que ça fait pas vraiment de bruit, il y avait pas de fumée, il y avait rien de spécial quoi.
Je traversais de la maison à la bergerie, j'entends cet avion, ça m'a interpellé. Je vous dis, j'ai entendu cet avion, je l'ai entendu. Je dirais que le moteur avait du mal à tourner. Il était pas normal, pas normal.
L'avion était un Airbus 320 de la filiale low cost de la Lufthansa, Germanwings. Il y avait à son bord 140 personnes. Il assurait la liaison Barcelone-Düsseldorf. Daniel Vallot, mardi.
C'est à 10h35 ce mardi matin que l'appareil commence à perdre de l'altitude. Il se trouve alors au-dessus des Alpes françaises. Sa chute, selon le patron de Germanwings, aurait duré 8 minutes avant que l'appareil ne finisse par s'écraser à environ 1500 mètres d'altitude, ce qui est très bas dans cette zone montagneuse où les sommets culminent à 3000 mètres. L'accident se produit dans une zone escarpée sur une pente qui va rendre très difficile l'intervention des secours. Ce sont d'ailleurs des hélicoptères de la gendarmerie qui sont les premiers à pouvoir survoler les lieux de l'accident et à visualiser les débris de l'appareil. Pour l'instant, concernant les causes de la catastrophe, le gouvernement français n'écarte aucune piste, sachant qu'au moment de l'accident, les conditions météo étaient satisfaisantes, sachant également qu'a priori l'équipage était expérimenté et que l'appareil avait subi une révision complète à l'été 2013. En tout état de cause, ni les autorités françaises, ni l'avionneur Airbus, ni la compagnie Germanwings ne sont en mesure pour l'instant d'avancer des éléments d'explication. La découverte de l'une des deux boîtes noires de l'appareil en fin d'après-midi devrait bien sûr grandement faciliter la tâche des enquêteurs.
Daniel Vallot, mardi à midi donc, la compagnie Germanwings a réagi dès l'information du crash connu. Écoutez une de ses représentantes, toujours mardi donc.
Pour le moment, nous considérons qu'il s'agit d'un accident. Nous ne pouvons rien dire de plus à ce stade. Tout le reste serait pure spéculation. C'est un moment tragique pour la Lufthansa et un jour très sombre de notre histoire.
Suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité, dès la catastrophe connue, d'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place, au plus près possible de la montagne où l'avion s'est écrasé, et les sauveteurs ont commencé à être hélitreuillés mardi jusqu'à la tombée de la nuit. Reportage de Stéphane Burgat.
Les 10 hélicoptères de l'armée ont cessé leur rotation en début de soirée. Les conditions météo sont difficiles avec une épaisse couverture nuageuse et donc une faible luminosité. La tâche des gendarmes s'avère compliquée, d'autant plus que la zone du crash est particulièrement escarpée, un flanc de pente abrupt et difficile d'accès. Donc pour qui n'est pas montagnard chevronné, les opérations devraient durer plusieurs jours. Les débris de l'Airbus étant de plus dispersés sur un hectare, mais pour faciliter autant que possible le travail des enquêteurs, ce périmètre sera surveillé toute la nuit par une unité de gendarmerie pour préserver la scène du drame face à la présence notamment de loups. Et le village de Seyne-les-Alpes, en plus de l'héliport improvisé et de la cellule de commandement, accueille une chapelle ardente où devraient être rapatriés les corps dans un premier temps. Et le maire se dit également prêt à accueillir dans le gymnase de la commune les familles des victimes qui feraient le déplacement. Les recherches enfin devraient reprendre tôt dans la matinée et à la faveur cette fois-ci d'une météo plus clémente.
Effectivement, ces recherches ont évidemment repris dès mercredi matin. Guilhem Delteil.
C'est peu avant 8 heures ce matin que les opérations de secours ont repris. Un incessant balai d'hélicoptères pour accéder à cette zone escarpée, inaccessible par la route. 15 appareils transportent sur place les gendarmes, pompiers et enquêteurs du BEA, le bureau enquête-analyse, qui sont ensuite élitreillés sur la zone du crash. Une caravane a aussi rejoint les lieux par voie terrestre, mais cela nécessite une marche à pied éprouvante, dont une partie hors sentier sur un versant très pentu de la montagne. Équipe de secours et forces de l'ordre recherchent les corps des 150 victimes. Il faudra ensuite les identifier et organiser leur rapatriement. Cela prendra plusieurs semaines. Et puis elle rassemble aussi des morceaux de la carlingue, de petits débris qui traduisent la violence du choc. Enfin, les enquêteurs aimeraient aussi retrouver la seconde boîte noire, celle qui enregistre les données de vol. Un travail méticuleux dans un environnement difficile, ce qui fait dire au ministère de l'Intérieur qu'il faut se hâter lentement pour mener à bien cette tâche et assurer la sécurité des enquêteurs.
L'émotion est grande en Allemagne, surtout dans la petite ville d'où était originaire un groupe de lycéens disparus dans le crash. Envoyé spécial Stéphanie Schuller, mercredi.
Partout à Halten am See, des gens pleurent dans la rue, la douleur est sur tous les visages. 16 lycéens de la ville ont trouvé la mort dans les Alpes françaises, mais c'est chaque habitant qui a l'impression d'avoir perdu un enfant. Ingo Janssen est pasteur et membre de la cellule de crise.
Halten est depuis toujours une ville avec une très forte cohésion sociale. Les églises, les communes, les associations sportives sont très présentes dans la vie quotidienne, ce qui crée des liens très importants entre les gens. Tout le monde se connaît, c'est comme une grande famille, et du coup maintenant chacun connaît une famille de victimes. C'est pour cela que les habitants sont en deuil, ils ont perdu des personnes qu'ils ont connues et partagent la peine des parents.
La prise de conscience est violente.
Maintenant, on est dans une phase où on réalise ce qui s'est passé. On a vu les images à la télé, on a les informations. Petit à petit, on comprend qu'il s'agit d'un adieu définitif. Et c'est là que la tristesse arrive. Mardi, c'était l'effroi. Aujourd'hui, c'est la tristesse profonde.
Les habitants ne peuvent pas ramener les enfants disparus. Seul leur reste cette peine à partager.
Même peine en Espagne, évidemment, d'où a décollé l'avion. Correspondance mercredi de François Musso.
Un entrepreneur de textile, une mère de 37 ans avec son bébé de 7 mois, un cadre de la marque vestimentaire Desigual, une responsable de la foire de Barcelone. Peu à peu, les victimes espagnoles ont un nom et un visage, et aussi une histoire. Les médias racontent l'itinéraire de chacun, ceux qui auraient dû voyager ce jour-là, ceux qui sont partis de façon aléatoire et qui sont morts. À l'image de ce couple de chanteurs d'opéra, le baryton Oleg Bruyac et la contralto Maria Radner. D'ailleurs, au lycée, l'opéra de Barcelone où ceux-ci se produisaient, les 350 salariés ont observé un long temps de silence sur les marches, sous une pluie fine. Hommage a été rendu aussi à des enfants d'un collège dont certains membres se trouvaient dans l'Airbus qui s'est écrasé. Tous les hommes politiques ont suspendu leurs activités. L'Espagne vit cette catastrophe comme un drame national.
Une semaine d'actualité.
En Allemagne, tout le monde s'est tout de suite interrogé comment un avion d'un groupe aussi fiable que Lufthansa a pu se crasher. Telle était la question, du moins avant que l'on apprenne la suite. Berlin, mercredi matin, Pascal Thibault.
Pour pourquoi ? Voler dans notre pays avec une compagnie allemande nous semblait jusqu'à présent sûr. Pourquoi penser une catastrophe grâce à tous ces contrôles et ces pilotes expérimentés ? Et pourtant, c'est arrivé. Le quotidien populaire Bild Zeitung traduit l'émotion qui frappe l'Allemagne après l'accident d'hier et que l'on retrouve dans de nombreux commentaires ce matin. Parce qu'il s'agissait d'une compagnie allemande, d'un avion, voire d'une liaison connue et proche, le choc est profond. La catastrophe fait la une de tous les journaux ce matin et les chaînes de télévision ont enchaîné les émissions spéciales depuis hier. Le sort des 16 élèves revenant d'un échange scolaire en Espagne a beaucoup ému l'Allemagne. Le maire de la ville retenait ses larmes hier lors d'une conférence de presse. La classe politique a également exprimé son émotion. Angela Merkel se rendra sur les lieux du drame aujourd'hui. Deux membres du gouvernement allemand y sont allés dès hier. Ce sont des images d'horreur. C'est un drame épouvantable, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier après avoir survolé le lieu du crash. Les drapeaux sont en berne aujourd'hui en Allemagne. Le Parlement rendra hommage demain aux 150 victimes de la catastrophe.
Suite de ce numéro spécial d'une semaine d'actualité, toujours mercredi au lendemain donc de la catastrophe, le président François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre espagnol Mariano Rajoy sont allés sur place. Retrouvons François Burgat.
Le ton est solennel, Angela Merkel, Mariano Rajoy, François Hollande, douleur partagée.
Des lycéens, des familles entières et aussi l'équipage. Je n'oublie pas.
Le peuple français de votre côté, assure François Hollande à la chancelière allemande et au président du gouvernement espagnol.
Comme il l'est à l'égard de tous les pays qui sont frappés, plus d'une quinzaine ont eu des ressortissants qui étaient dans cet avion.
Des condoléances et des félicitations, Hollande, Merkel, Rajoy sont allés directement saluer, remercier le dévouement des gendarmes, pompiers et bénévoles.
J'ai été saisi d'émotion en voyant tous ces personnels rassemblés dans la chapelle ardente. Tous se sont mobilisés. Je veux les saluer.
Derrière François Hollande, tous saluent l'élan de solidarité et de fraternité.
Ces opérations ont permis de sécuriser le lieu pour que l'enquête puisse donner des résultats.
Et qualifié d'exemplaire par Angela Merkel et Mariano Rajoy, François Hollande leur promet, les yeux dans les yeux, que la vérité sera faite dans ce drame, même s'il faudra être patient, nuance-t-il.
Alors, les premières informations sur l'enquête révélées jeudi après l'écoute de la boîte noire qui a enregistré les sons à l'intérieur du cockpit ont écarté le problème mécanique et privilégié la cause humaine, pointant le comportement du copilote Guilhem Deltaï et Boris Vichit jeudi donc.
L'analyse de ces enregistrements ne souligne aucune anomalie sur la première partie du vol, mais elle révèle qu'à un moment donné, l'un des deux pilotes est sorti de la cabine. On ne sait pas duquel il s'agit, ni pour quelle raison il a quitté le poste de pilotage, mais il n'a jamais pu regagner sa place. Car depuis les attentats du 11 septembre, le cockpit est verrouillé de l'intérieur pour éviter des détournements d'avion. Et dans le cas de l'A320 de Germanwings, les enregistrements des conversations montrent que le pilote qui était à l'intérieur n'a pas ouvert à celui qui était à l'extérieur. Lui a d'abord frappé normalement à la porte, mais face à l'absence de réponse, il s'est mis à tambouriner et a même tenté de la défoncer en vain. Ce que révèlent aussi ces enregistrements, c'est que les alarmes indiquant la proximité du sol ont bien fonctionné. Par ailleurs, les recherches se poursuivent pour retrouver la seconde boîte noire, celle qui garde une trace des données techniques de vol. Son enveloppe a été retrouvée hier, mais pas l'enregistreur de vol en lui-même.
Andreas Lubitz, le copilote, était aux commandes. Écoutez le procureur de Marseille, Brice Robin, lors de son point presse jeudi midi.
L'interprétation la plus vraisemblable pour nous est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Je vous rappelle que dans les 8 dernières minutes, cet appareil est passé d'à peu près 10 à 12 000 mètres d'altitude, environ 30 000 pieds, à quasiment 2 000 mètres d'altitude, et que la montagne qu'il a percutée se situe entre 1 500 et 2 500 mètres. Alors, il a donc actionné ce bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion. Voilà les derniers éléments d'enquête que je pouvais vous communiquer. Nous avons sollicité des renseignements des autorités judiciaires allemandes sur l'environnement personnel ou familial, voire pourquoi pas professionnel, j'en sais rien, de ce copilote qui est de nationalité allemande.
Andreas Lubitz, les failles cachées d'un pilote, titré hier soir le quotidien français Le Monde. La presse allemande, pour ne parler que d'elle, s'est interrogée et s'interroge aussi sur ce copilote, la justice également. Pascal Thibault hier à Berlin.
Andreas Lubitz était en arrêt maladie mardi, le jour du crash de l'avion de Germanwings. Le parquet de Düsseldorf a communiqué cette information à la mi-journée après les perquisitions effectuées hier au domicile du copilote ainsi que chez ses parents. Cette information va relancer les spéculations sur l'état de santé du jeune homme et sur les raisons qui l'ont poussé à travailler malgré tout mardi. Voulait-il dissimuler sa maladie à son employeur? Le parquet affirme en revanche ne pas avoir retrouvé de lettre d'adieu au domicile du jeune homme ou un document expliquant son geste. Depuis hier, les spéculations sur les motivations d'Andreas Lubitz vont bon train. Après les témoignages de ses proches, le quotidien Bild Zeitung, qui a eu accès au dossier du jeune homme, parle d'un épisode dépressif lourd en 2009, ayant conduit à un traitement psychiatrique et à une interruption de plusieurs mois de la formation du futur pilote. Depuis, le jeune homme était, toujours d'après le journal, sous traitement médical particulier et régulier. Un psychologue doit consulter ce dossier. Aujourd'hui, écrit le quotidien Bild Zeitung, les informations doivent être communiquées ensuite à la justice allemande, qui les transmettra aux enquêteurs français. Le quotidien berlinois Tagesspiegel affirme, lui, qu'Andreas Lubitz est soigné actuellement pour dépression à l'hôpital de Düsseldorf.
Dans la montagne, les gendarmes sont à l'œuvre depuis mardi dans des conditions difficiles pour enquêter d'abord et retrouver les corps des victimes. Reportage de Daniel Vallot.
Ce sont des allers-retours incessants qui sont effectués par les hélicoptères de la gendarmerie nationale. Les enquêteurs et les gendarmes de haute montagne qui les accompagnent sont lourdement équipés, harnachés de baudriers, de crampons et de cordes. Le lieutenant-colonel Vialinck, officier de la gendarmerie nationale.
Ils sont une trentaine, donc en gros, à travailler par jour là-haut. Donc 15 dédiés aux investigations et 15 dédiés à assurer les gendarmes qui font les investigations. C'est très pentu là-haut, donc on peut pas travailler seul. Ils sont obligés de l'assurer. Il y en a un qui assure l'autre. Donc ça, c'est le rôle des gendarmes spécialisés en montagne, haute montagne. Ils assurent des gendarmes qui sont à la fois enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens, qui eux mènent les investigations police judiciaire, donc enquête judiciaire, et des gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, qui eux s'attachent à l'identification des victimes.
Une fois repérés, les corps des victimes sont élitreillés vers la vallée. Commence alors un processus délicat d'identification et de test ADN. Hier, des prélèvements ont pu être effectués auprès des proches des victimes. Au total, c'est une trentaine de médecins légistes qui se sont attelés à la tâche. Selon la gendarmerie, en raison de la violence de l'accident et de l'éparpillement des corps, l'identification des victimes pourrait prendre plusieurs semaines.
Voici donc le récit de cette catastrophe de mardi. La suite est évidemment relatée dans nos journaux ce matin.
Sept jours en France.
Nous allons conclure cette première partie de cette édition spéciale de votre magazine consacrée à l'actualité en France avec tout autre chose, les élections départementales. Le second tour, il faut le rappeler, demain, après un premier vote que Florent Guignard a analysé dès dimanche soir.
C'est la petite surprise de ces départementales. Le Front National n'est pas le premier parti de France, comme il l'avait été aux européennes. Pour la première fois, la dynamique de Marine Le Pen est enrayée. Le FN ne progresse pas d'une élection à l'autre. Mais il n'empêche, jamais l'extrême droite n'avait été aussi forte dans une élection locale. Et Marine Le Pen est en passe de réussir l'enracinement du Front National, un passage obligé avant la présidentielle. Second vainqueur de ce scrutin, c'est la droite républicaine, très largement en tête, qui peut tabler sur une France des départements repeinte en bleu dimanche prochain. Un succès pour Nicolas Sarkozy depuis son retour à la tête de l'UMP en novembre dernier. La gauche, elle, est la grande perdante alors qu'elle détenait 61 départements jusqu'ici. Une gauche partie au combat très divisée alors que les Français, ceux qui sont allés voter, ont manifesté leur volonté de sanctionner le gouvernement. Résultat, dans des centaines de cantons, le candidat socialiste est éliminé dès le premier tour. Des centaines de mini 21 avril.
Alors, sachez qu'il y aura une soirée électorale sur ces élections départementales demain soir sur notre antenne. On se retrouve dans 3 minutes après un point sur l'actualité de ces dernières heures. Nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité dans le monde. Nous partirons pour le Yémen notamment et donc aussi en Afrique où il sera question entre autres du Nigeria ces derniers jours. N'hésitez pas à nous écrire semaine.actu@rfi.fr. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant à notre revue de 7 jours d'événements sur la planète.
Une semaine d'actualité.
Numéro hors série en quelque sorte de ce magazine. Nous avons parlé du crash de l'A320 de Germanwings dans la première partie de l'émission. Nous allons revenir maintenant sur l'actualité internationale, africaine notamment. Rendez-vous tout à l'heure avec vos messages.
RFI.
L'Arabie Saoudite a donc lancé avec ses alliés sunnites du Golfe une offensive contre les Houthis des chiites qui assiégeaient Aden dans le sud du Yémen. Céline Pellarin.
L'Arabie Saoudite a lancé une opération militaire au Yémen impliquant plus de 10 pays. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir l'ambassadeur du Royaume sunnite à Washington. 5 États du Golfe, soutenus politiquement par l'Égypte et les États-Unis, ont décidé de répondre à l'appel à l'aide lancé par le président yéménite. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Bahreïn et le Qatar ont déclaré dans un communiqué vouloir protéger le Yémen contre ce qu'ils qualifient d'agression houthi. C'est donc à l'aube ce jeudi que des avions militaires ont lancé une attaque contre l'aéroport de Sanaa, la capitale. Un dirigeant du mouvement houthi a déclaré à la chaîne de télévision Al Jazeera que les frappes aériennes saoudiennes équivalaient à une agression contre le pays et il a mis en garde contre une guerre dans toute la région. L'Arabie Saoudite, pays frontalier du Yémen, s'inquiète de l'avancée des milices chiites houthis. Des milices qui ont pris le pouvoir dans la capitale Sanaa le mois dernier se sont emparés hier de l'aéroport international d'Aden. C'est dans cette grande ville du sud du pays que le président avait jusqu'à présent trouvé refuge. Mais Washington a indiqué que le dirigeant yéménite a quitté sa résidence d'Aden et les autorités américaines déclarent ne pas savoir où il se trouve actuellement.
Sur cette offensive de l'Arabie Saoudite, une offensive importante et de ses alliés, Clarence Rodriguez, hier à Riyad.
Les raids aériens se poursuivent dans le nord du Yémen et les services de secours sur place font état de 18 combattants tués, dont 13 rebelles houthistes. Les frappes aériennes ont détruit la base aérienne d'Al-Dalaimi, située à proximité de l'aéroport de la capitale yéménite, Sanaa, ainsi que des batteries de missiles SAM et 4 avions de chasse. Les forces aériennes saoudiennes sont quasiment parvenues à sécuriser l'espace aérien yéménite, mais surtout, elles ont repris l'aéroport d'Aden, qui était passé la veille sous le contrôle de la rébellion zaïdiste. De son côté, l'Iran, accusé de soutenir les rebelles chiites, mais surtout frère ennemi juré de l'Arabie Saoudite, a dénoncé l'opération Tempête Décisive, qualifiée d'agression militaire. Téhéran a en effet mis en garde contre une propagation du conflit yéménite à d'autres pays dans la région. Les autorités saoudiennes, qui voient d'un très mauvais œil un accord imminent sur le nucléaire, craignent aussi que les Iraniens profitent de la situation chaotique au Yémen pour tisser leur toile chiite après s'être imposés en Irak, Syrie, Sud-Liban avec le Hezbollah. Concernant le président yéménite, Mansour Hadi, il est arrivé hier soir à Riyad, une avant de participer au sommet de la Ligue arabe qui aura lieu ce week-end à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Au sommet à suivre évidemment dans nos points d'information. Dans l'actualité internationale, à noter aussi, Clarence Rodriguez y faisait allusion à l'instant, les négociations sur le nucléaire iranien. On vous en parle dans nos journaux. Le président afghan Ashraf Ghani a appelé le reste du monde mercredi à prendre la mesure de la menace posée par les groupes extrémistes, notamment l'organisation État islamique, autour de l'Afghanistan lors d'un discours au Congrès américain à Washington. Il a aussi rencontré le président Barack Obama, correspondance d'Anne-Marie Capomaccio.
Le président afghan demandait de la flexibilité dans le retrait des troupes américaines. Son souhait a été exaucé. Barack Obama justifie cette annonce par la nécessité de mieux entraîner l'armée afghane. « Nous ne devons pas avoir à retourner à Kaboul », a expliqué le président. Allusion à la situation en Irak, d'où, faute d'accord, les Américains se sont retirés sans préparer la relève et le résultat n'est pas probant. Les 9800 soldats américains qui sont aujourd'hui sur le terrain resteront jusqu'à la fin de cette année. Leur nombre devait être réduit de moitié.
J'ai décidé de maintenir notre engagement actuel jusqu'à la fin de l'année. La stratégie d'un éventuel retrait en 2016 sera établie dans le courant de cette année afin de permettre d'atteindre notre objectif, qui est une présence pour la seule protection de notre ambassade à la fin de l'année 2016. By the end of
2016. Les deux présidents ont fait assaut d'amabilité pendant cette conférence de presse. Ashraf Ghani, qui connaît bien les États-Unis, s'est exprimé dans un langage choisi, bien compris ici. Il s'est déclaré conscient du poids que ses requêtes font peser sur le contribuable américain, qu'il a remercié pour ses efforts envers l'Afghanistan.
7 jours dans le monde.
Merci d'écouter RFI. Suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité, c'est officiel. Benjamin Netanyahou est à nouveau Premier ministre d'Israël et il s'est exprimé devant les journalistes Jérusalem jeudi. Muriel Paradon.
Nous tendons la main à nos voisins palestiniens en signe de paix, mais Israël doit rester fort pour sa sécurité, a prévenu Benjamin Netanyahou. Il a aussi évoqué ses relations tendues avec les États-Unis. J'ai le plus grand respect pour nos alliés et amis américains, mais nous continuerons d'œuvrer contre un accord sur l'Iran qui met en danger notre pays. À peine reconduit dans ses fonctions, Benjamin Netanyahou semble donc maintenir ses positions, même s'il adopte un ton plus modéré. Durant la campagne électorale, il s'est attiré les foudres de Barack Obama en revenant sur la création d'un État palestinien et en allant au Congrès américain pour torpiller les négociations sur le nucléaire iranien. Hier soir, Reuven Rivlin, le président israélien, a nommé Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre, prenant acte du verdict des urnes, mais ce n'était pas de gaieté de cœur. Affichant une mine sombre, il l'a rappelé à ses responsabilités. Votre priorité sera maintenant de restaurer les liens entre Israël et les États-Unis.
Alors au sujet justement de ces relations entre les États-Unis et Israël, écoutez ce que disait mercredi lucide et un rien désabusé Barack Obama.
Le Premier ministre Netanyahou, pendant la campagne électorale, a dit qu'il n'y aurait pas d'État palestinien tant qu'il serait Premier ministre. Et je le crois sur parole. C'est ce qu'il voulait dire et de nombreux électeurs en Israël l'ont compris de même, sans équivoque. Après l'élection, il a indiqué qu'il n'avait jamais dit jamais, mais qu'il fallait remplir une série de conditions pour qu'un État palestinien puisse éventuellement être créé. Mais bien sûr, les conditions sont telles qu'il est impossible de les remplir dans un futur proche. Donc, pour résumer, je dirais que notre coopération militaire et en matière de renseignement avec Israël va continuer. Elle ne sera pas affectée. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est de prétendre qu'il y a un espoir, alors qu'en réalité, il n'existe pas. Et nous ne pouvons pas continuer d'avoir une diplomatie en public basée sur une idée dont tout le monde sait qu'elle ne se réalisera pas, en tout cas dans les années à venir. Pour notre propre crédibilité, je pense que nous devons au moins être honnêtes sur ce point.
Il était le père de Singapour, qu'il a dirigé avec autorité, un pays indépendant en 1957. Lee Kuan Yew est mort lundi et les Singapouriens lui ont rendu un hommage jeudi. Reportage de Karine Newton.
Les Singapouriens venus rendre hommage à Lee Kuan Yew ont surpris tout le monde en formant cette gigantesque file d'attente dont les portions sont à l'échelle des rues. David se place en fin de queue. Il ne sourcille pas en apprenant qu'il en a pour 5 heures.
Je suis venu en ville juste après le boulot. Nous devons respecter M. Lee Kuan Yew. Il a fait beaucoup pour nous. Sans lui, Singapour n'aurait pas été si agréable. Tout le monde a une vie plutôt facile.
Tout le long, les restaurants distribuent des boissons fraîches, disposent des chaises pour ceux qui fatiguent, des attentions impensables en temps normal. Cette solidarité renforce la dimension historique de l'instant. Aux portes du Parlement, le ministre des Affaires étrangères est venu remercier ses compatriotes. Kachamunga.
Je suis né juste 2 mois avant qu'il n'arrive au pouvoir. Toute ma vie a été impactée par lui. Tous nos niveaux de vie se sont améliorés et le mérite en revient à M. Lee Kuan Yew. Puis il est parti.
Wen Tikwan et Kumari viennent de sortir. Après 5 heures à se suivre, elles sont devenues amies et s'échangent leurs numéros. Elles ont pu apercevoir leur ancien Premier ministre quelques secondes.
Quand c'est à l'intérieur, c'est très solennel, rapide aussi. Mais pour n'importe quelle célébrité, ça aurait été la même chose. Surtout, vu le monde qui attend pour le voir. Est-ce que ça vaut le coup ? Oh oui, beaucoup. C'est l'opportunité d'une vie.
Face à l'ampleur des hommages, les autorités ont finalement décidé d'ouvrir les lieux et d'assurer un service de transport 24 heures sur 24 jusqu'aux obsèques dimanche.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Ahmed Saloum, professeur au lycée Kennedy de Dakar. Il écrit que les tenants du pouvoir à Dakar doivent méditer le sort de Karim Ouad avant de s'approprier les deniers publics. Fin de citation. Un bonjour à Omar Abakar Anjamena. Il salue lui les citoyens du monde. Bonjour à Jacques Malal à Nouakchott. Je me demande, écrit-il, ce que serait le monde sans les médias. Mais quand je vois des petites radios qui ne respectent pas l'éthique dans nos pays, qui ne peuvent faire la différence entre une rumeur et une information, cela m'inquiète. Vive RFI. Bonjour à Tierno Ibrahima. Il s'interroge pourquoi Israël et les républicains des États-Unis ne veulent pas entendre parler d'un accord entre l'Iran et les grandes puissances pour son programme nucléaire. Bonjour à Ibrahima Issa. Quelle menace le monde aura lorsque l'Iran développera son arme nucléaire, se demande-t-il. Bonjour à Al Ghazali à Dakar. À propos des victimes du crash de la 320, elle prie pour un repos paisible de ses âmes tristement disparues, écrit-elle. Nos condoléances. Bonjour à Mahamat Chérif, à Moundou, au Tchad. Votre fidèle auditeur, précise-t-il, je profite de votre antenne pour dire bonjour à mon ami Abakar Mustapha, qui est à Lomé au Togo, et à Bass, qui est à N'Djamena. Enfin, un petit bonjour à Ablaï Wali. Je suis, écrit-il, un fidèle auditeur chaque samedi. Je salue tous les auditeurs de RFI et je vous écris de Bouanadji, mon village au Sénégal. Suite de ce numéro spécial d'une semaine d'actualité consacré dans sa première partie au crash dans les Alpes françaises, nous allons aborder maintenant les côtes africaines et en passant d'abord par la Tunisie, à Tunis précisément, où le musée du Bardo a rouvert ses portes mardi après l'attentat dont nous vous avons parlé samedi dernier. Correspondance de Camille La France.
Des enfants s'écrient « Vive la Tunisie » à l'intérieur du musée, entre un passage de tambour et costumes folkloriques et les morceaux de l'orchestre symphonique. Parmi les spectateurs, Abdelrahman Rihani, guide touristique, il a vécu l'attaque du Bardo mercredi dernier. Ce moment revêt donc pour lui une grande importance.
Le jour de l'attaque, jamais je pourrais l'oublier. Jusqu'à maintenant, je vois des images, j'entends des coups de feu, des gens crier. C'est dur, c'est triste, il faut revenir. Parce que ces gens-là qui ont fait cette barbarie-là, leur objectif, c'est mettre peur et détruire l'économie tunisienne. La meilleure réponse, c'est lutter, croire. C'est l'unique solution qu'on a.
La cérémonie sur invitation était réservée aux personnalités publiques et médias. Les autres Tunisiens venus montrer leur soutien sont restés aux grilles du musée. Malgré la pluie, une manifestation des peuples contre le terrorisme est venue les rejoindre. Manifestation organisée à l'occasion de l'ouverture du Forum social mondial. Elena Ria, représentante d'associations kurdes.
Aujourd'hui, on sait très bien que l'ennemi est le même. Il faut que le peuple montre sa force aujourd'hui dans les rues pour dire qu'on est tous unis et qu'on veut la liberté et la démocratie.
Le terrorisme et la sécurité, ces thèmes seront à l'honneur dans les ateliers de ce Forum social mondial.
Le Sénégal, le gros titre de la semaine dans le pays, est la condamnation de Karim Ouad, le fils de l'ancien président, à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Coralie Pierret.
Des voitures de luxe, des comptes en banque, des sociétés fictives attribuées à Karim Ouad. L'origine licite de ce patrimoine n'a pas été prouvée, déclarait le président de la Cour ce lundi matin. Par conséquent, Karim Ouad est déclaré coupable d'enrichissement illicite. Pour les avocats du fils de l'ancien président, ce verdict ne marque pas la fin, mais bien le début d'un long combat judiciaire. Faute de pouvoir faire appel, il se pourvoit en cassation. Pour Maître Sédou Diagne, un des avocats de Karim Ouad, il faut souligner que son client échappe à la privation des droits civiques en raison de la relaxe du chef d'accusation de corruption. Est-ce à dire que Karim Ouad pourra se présenter à la prochaine présidentielle ? Le débat reste ouvert. Du côté du pouvoir, on souligne que le fils de l'ancien président a la double nationalité franco-sénégalaise, ce qui barrerait la route à une candidature. Quant à l'éventualité d'une grâce, Sidiki Kaba, le ministre de la Justice, a rappelé hier que cela relevait de la prérogative du chef de l'État.
Karim Wade, une personnalité souvent critiquée, notamment pour son arrogance. Karine Franck.
Quand son père Abdoulaye Wade était au pouvoir, les Sénégalais le surnommaient « le ministre du ciel et de la terre », lui qui avait en main quatre portefeuilles des plus importants. Ses détracteurs lui reprochaient son train de vie, son arrogance. Son nom était cité dans des scandales de corruption et de détournement. On le savait adulé par son père et l'on redoutait plus que tout une succession dynastique à la tête du Sénégal. Aujourd'hui, Karim Wade a déjà passé 2 années en prison et les lignes ont bougé. Si certains ne sont pas prêts d'oublier et ne veulent surtout pas entendre parler d'impunité. D'autres, en revanche, reconnaissent que Karim Wade est plus populaire qu'avant. C'est lié au fait qu'il apparaît aux yeux d'une partie de la population comme victime d'une injustice, d'un règlement de compte politique, explique un professeur de sciences politiques, d'autant qu'il est pour l'instant l'un des seuls responsables à devoir rendre des comptes. C'est peut-être aussi le fait de ces 2 années d'incarcération, ce qui n'est pas arrivé souvent dans l'histoire politique du Sénégal. Cela le rend de facto plus sympathique qu'avant, souligne le politologue, même s'il ne faut pas forcément y voir, précise-t-il, une adhésion à sa cause. L'ancien président Abdoulaye Wade le pense en tout cas, qui entend bien remuer ciel et terre pour faire libérer son fils.
Semaine d'actualité en Afrique, les Nigérians votent aujourd'hui à l'occasion d'élections présidentielles et législatives. Quelques 56 millions d'électeurs sont concernés par ces scrutins sur environ 180 millions d'habitants. Ils choisiront leurs élus en partie sur des choix ethniques. Lagos mercredi, Julie Vandal.
Dans une société aux nombreuses fractures, l'ethnie reste une question centrale pour les électeurs nigérians. Les Haoussa et les Peul du Nord, la région d'origine de Muhammadu Buhari, estiment que c'est au tour d'un des leurs de gouverner, puisque les sudistes ont été au pouvoir 13 ans sur 16 depuis le retour de la démocratie en 1999. Du côté des sudistes, on considère que le président sortant doit faire un deuxième mandat de 4 ans, celui-ci n'ayant effectué qu'un seul mandat complet. Goodluck Jonathan bénéficiera donc du soutien de son ethnie, les Idjo, ainsi que de celui des Igbo, majoritaires dans le sud-est. Des partisans parfois excessifs, à l'image des militants du Delta du Niger, qui en janvier ont menacé le pays de guerre si Jonathan n'était pas réélu à l'issue du scrutin de ce samedi. Malgré tout, l'atavisme du vote ethnique s'atténue peu à peu, notamment dans les milieux urbains cosmopolites. À Lagos, par exemple, les élites et de plus en plus d'électeurs issus de la classe moyenne naissante sont plus enclins à voter en dehors de toute considération ethnique, mais sur la base d'un programme et des résultats d'un candidat.
Cette journée de vote aujourd'hui donc va se dérouler dans un climat de tension certain, avec même des rumeurs de coup d'État. Lagos jeudi, Maureen Grisot.
La tension monte à l'approche du vote. L'ancien président Olusegun Obasanjo est allé jusqu'à mettre en garde contre toute intervention militaire dans les affaires du pays, réagissant aux rumeurs sur un possible coup d'État en cas de contestation du verdict des urnes. Les Nigérians assurent ne pas être inquiets, mais ils ont déjà fait des provisions de nourriture et de fuel pour les générateurs, au moins pour tenir si le couvre-feu se prolonge. Les voitures sont interdites de circulation samedi toute la journée et les frontières maritimes et terrestres ferment dès ce soir. La présence de soldats dans les rues et autour des bureaux de vote est vivement débattu. Plusieurs juges fédéraux l'ont interdite, comme à Lagos, mais certaines sources sécuritaires assurent que c'est bien l'armée qui sera chargée de mettre en œuvre ce couvre-feu. La police encourage les électeurs à quitter les bureaux de vote juste après avoir mis leur bulletin dans l'urne par crainte de débordement, alors que la commission électorale et le principal parti de l'opposition veulent qu'il reste jusqu'au dépouillement par souci de transparence. Le président sortant, Goodluck Jonathan, et son principal rival, Muhammadu Buhari, ne cessent de s'opposer dans la presse, allant jusqu'à mettre en cause l'impartialité de la commission électorale indépendante. Dans cette atmosphère de suspicion, certains observateurs s'inquiètent de la capacité du perdant à accepter la proclamation des résultats.
Et à l'intérieur du pays, du Nigeria, donc, des milliers de déplacés qui ont fui les exactions de Boko Haram ne vont pas pouvoir voter aujourd'hui. Notre envoyé spécial, Binetta Diane, en a rencontré non loin d'Abuja.
Assis à l'ombre d'un manguier, des pères de famille se remémorent l'époque où Gosa, leur village d'origine, était en paix. Ils sont infirmiers, vendeurs et instituteurs, mais ne peuvent plus mener leurs activités depuis qu'ils ont fui les violences imposées par Boko Haram, à l'image de Johanna Urawa.
Nous avons planté du haricot, mais ici, dans le centre du pays, c'est difficile de vendre nos produits. Cela ne nous rapporte pas grand-chose. Nous consommons une partie de la production.
Même frustration exprimée par Philibus Wurta, cet agriculteur a perdu ses terres et comme tant d'autres, il manque de moyens pour en louer de nouvelles.
Pendant un an, nous cultivions presque gratuitement ici, mais ce n'est plus possible parce que les propriétaires de terres veulent maintenant les vendre et c'est trop cher pour nous. C'est plus de 180 millions de naira.
Dans ce village privé d'électricité, on ne suit pas les débats télévisés sur la politique. La campagne électorale, on la regarde avec une certaine distance, car ici d'ailleurs, personne n'a pu s'inscrire pour aller voter.
Nous ne suivons pas la campagne électorale. Nous n'avons pas pu nous inscrire sur les listes de la commission électorale. Donc, nous n'allons pas voter.
De son côté, la commission électorale a assuré être en mesure de faire voter les populations résidant dans les localités du nord du pays, libérées récemment par l'armée.
Dans l'actualité africaine, à noter aussi lundi d'importantes manifestations d'étudiants en médecine à Abidjan sur le campus Soufouette-Boigny et des manifestations de fonctionnaires au Gabon, fonctionnaires en grève depuis le 9 février dernier pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail.
7 jours en Afrique.
Partons maintenant pour le Burundi, où le président Nkurunziza est contesté par l'opposition et parce que l'on appelle la société civile, parce qu'il veut briguer un troisième mandat. Maintenant, ce sont ses amis politiques qui s'inquiètent. Bujumbura lundi, Esras Dikumana.
Jusqu'ici, Pierre Nkurunziza devait faire face à une société civile très active et une opposition politique déterminée à lui barrer la route d'un troisième mandat. Mais leur menace d'appeler la population burundaise à descendre dans la rue dès qu'il annoncera sa décision, les réticences de la communauté internationale ne l'ont pas dissuadé de renoncer à son projet. Cette fois, le président burundais doit faire face à un danger autrement plus menaçant selon ses proches, l'affront au sein de son parti, le CNDD-FDD. Fort du soutien des hauts gradés de l'armée et de la police issue de l'ex-rébellion aujourd'hui au pouvoir, Nkurunziza, qui est aussi le président du conseil de sages, l'organe de décision de son parti, pensait avoir toutes les cartes en main. Ça n'est pas le cas visiblement. Les frondeurs du parti CNDD-FDD, qui s'opposent à ce qui brigue un troisième mandat, avancent désormais à visage découvert. Une pétition, lancée depuis 3 jours, a déjà recueilli entre 100 et 300 signatures parmi leurs cadres de ce parti, selon les sources. Les frondeurs pensent qu'ils ont avec eux la majorité silencieuse du parti au pouvoir, et ils demandent que le congrès du CNDD-FDD, qui doit choisir son candidat à la présidentielle avant fin avril, soit démocratique, pas sûr qu'il soit entendu.
Fin d'une semaine d'actualité en Afrique avec un énorme projet. Il s'agit d'un barrage sur le Nil dont la construction a commencé en Éthiopie il y a 4 ans maintenant. Ce projet vient d'être accepté, entériné par les présidents égyptiens et soudanais. Olivier Roger.
Voilà un projet que les pharaons n'auraient pas renié. Le barrage de la Grande Renaissance sera en 2017 le plus imposant de tous les barrages hydroélectriques d'Afrique, avec une puissance de 6000 MW d'électricité, soit 3 fois la puissance du barrage d'Assouan, ou encore 8 fois la production totale d'électricité du Sénégal, 7 fois celle de la Guinée. Le barrage de la Grande Renaissance, encore appelé barrage du millénaire, va permettre à l'Éthiopie d'exporter de l'électricité chez ses voisins, les 2 Soudans, Djibouti, le Kenya, le Yémen. Tous sont intéressés par cette électricité à bas coût et dont l'exportation rapportera à l'Éthiopie 700 millions d'euros par an. L'ouvrage coûtera au total 4,5 milliards d'euros, une somme financée à la fois par l'État et par les Éthiopiens via un emprunt obligataire lancé par le gouvernement. Outre l'électricité, le barrage va permettre à l'agriculture irriguée de faire un bond en avant. Aujourd'hui, seuls 3% des terres agricoles éthiopiennes sont irriguées, mais dans 2 ans, les agriculteurs auront à disposition une petite partie des 63 milliards de mètres cubes d'eau retenus par le barrage.
Et c'est sur ce barrage sur le Nil que s'achève cette édition spéciale d'une semaine d'actualité, consacrée donc dans sa première partie au crash de l'A320 dans les Alpes françaises. Une semaine d'actualité réalisée bien sûr par Vanessa Rovensky, une émission que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, vous le savez. Demain, nous parlerons du sociologue Jean Baudrillard avec un spécialiste, Olivier Penola-Cassagne, qui vient de diriger la publication d'un ouvrage collectif sur ce penseur. Demain, dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.